Tension à la marge, votre chronique féministe sur Divergence FM.
Il faut une sacrée dose de volonté à une femme noire pour atteindre le sommet de la montagne qu'elle vise.
Attention à la marge, où on parle de féminisme, d'antiracisme, d'anticapitalisme.
Nous allons effectivement améliorer les choses, mais nous n'avons pas besoin de votre secours.
Attention à la marge sur Divergence FM. Bonjour à toi qui m'écoutes. Bienvenue dans Attention à la marge. Lorsque l'on visite les musées d'égyptologie, on est souvent impressionné par les statues grandioses des pharaons successifs. Des colosses de pierre de plusieurs mètres de haut, au regard sévère et serein. À voir tous ces souverains, on en a vite fait de se dire que l'Égypte est une société patriarcale comme les autres. Mais alors, où sont passés les pharaons? Eh oui, l'Égypte antique fut le lieu d'une longue tradition d'autorité féminine et de liberté pour les femmes de toute classe sociale. Chose inédite dans le monde antique, on y trouve des femmes amirales, médecins, juges et même garde des sceaux. Contrairement aux Romaines et aux Grecs, elles ne demeurent pas sous la tutelle d'un homme toute leur vie. Elles peuvent intenter un procès, divorcer et même récupérer leur dot lorsqu'elles quittent leur mari. La présence des femmes dans le pouvoir égyptien remonte à ce que l'on appelle l'Ancien Empire. La grande précurseuse, c'est Hétepérès, mère du pharaon Khéops. Elle a vécu 1300 ans avant le célèbre Toutankhamon et a eu un rôle extrêmement important dans le règne de son fils. Néanmoins, malgré son influence sur la sphère politique, son autorité reste celle d'une reine-mère. Elle est puissante, mais sa souveraineté est limitée. Après elle, de nombreuses femmes ont régné sur l'Empire égyptien, dont au moins 5 d'entre elles en tant que pharaon. Une, en particulier, a retenu mon attention. Et celle de nombreux scientifiques d'ailleurs. Il s'agit de la toute première femme à avoir accédé à la fonction ultime de pharaon, cumulant à elle seule l'autorité absolue sur les deux terres qui composent l'Empire égyptien. Son nom, c'est Hatshepsut, et elle régna durant 22 ans. Au départ, rien ne la prédestine au trône. Fille de Thoutmosis Ier, elle appartient à une branche mineure de la 18e dynastie royale. Mais tout bascule quand le pharaon meurt sans héritier. Le père d'Hatshepsut accède au pouvoir et l'on dit qu'il dispense à sa fille l'éducation dédiée aux héritiers du trône. Elle part en campagne avec lui et découvre à ses côtés l'immense pays sur lequel elle régnera un jour. Dans le temple de Deir el-Barari, une inscription cite le nouveau pharaon proclamant « Je la mettrai à ma place ». Comme il est de coutume, Hatshepsut épouse son demi-frère, Thoutmosis II, et c'est lui qui monte sur le trône à la mort de leur père. Ce dernier a un fils avec une concubine qui devient automatiquement son héritier légitime. Mais à la mort de Thoutmosis II, qui avait une santé fragile, le garçon n'est encore qu'un enfant. C'est donc une jeune Hatshepsut, d'à peu près 25 ans, qui devient régente. C'est un cas de figure assez habituel pour l'Égypte antique. Ce qui l'est moins, c'est que l'héritier n'accédera jamais véritablement au trône. L'année de sa majorité, ce n'est pas lui qui est couronné, mais bien notre Hatshepsut. Grâce à son intelligence et sa grande habileté politique, elle est parvenue à l'évincer et à prendre place sur le trône. On ne sait pas exactement comment elle a accompli ce tour de force, mais il semble qu'elle avait de puissants soutiens parmi les hauts fonctionnaires égyptiens. À l'époque, une femme pharaon, c'est complètement inédit. Alors Hatshepsut joue de son androgynie. Elle se fait représenter tantôt comme une femme, tantôt comme un homme, et le plus souvent comme un mélange des deux. Elle est représentée avec tous les attributs de son titre. Le némès, coiffe royale, le pagne en chenjit, le bâton de berger, le fléau et surtout la fameuse barbe poche-sif. Ces titres honorifiques deviennent ceux du pharaon, mais reste féminin. Elle garde ses titres de fille du roi, épouse du roi, sœur du roi et mère du roi. Et à cela s'ajoutent les titres de main du dieu et épouse du dieu, de souveraine des deux terres et même de souveraine de la terre entière. Pas mal, non ? Et son règne ne fait que commencer. Il sera grandiose, mais bien vite oublié, car le patriarcat est infatigable. La prochaine fois, je te parlerai plus en détail du règne d'Hatshepsut et du sort mémoriel que lui ont réservé des successeurs ingrats. Nous ne sommes pas prêts, je crois, de sortir du Sahara. Alors à bientôt, chère auditrice.